Radio Kapi.
Tristesse, angoisse, consternation. En tout cas, enseignants, parents, habitants de Bukavu manquent de mots pour exprimer ce qu'ils ressentent après que 8 écoliers et leur chauffeur trouvent la mort lors d'un accident en début d'après-midi, juste après leur examen de ce jeudi 28 juin 2022. Le bus qui les transportait s'est retrouvé en dessous d'un gros camion. Récit très poignant à suivre en ouverture de cette édition. Autre nouvelle triste pour l'humanité dans le cadre de la prévention contre des maladies. Tenez, des vaccins d'une valeur de plus ou moins 2 millions de dollars sont partis en fumée dans la ville de Bunia. Ces produits contre au moins 13 maladies emportées dans un incendie étaient destinés pour des milliers de femmes et enfants de l'Ituri. Professeur Wenceslas Boussane de l'Université catholique de Bukavu et spécialiste en droit des peuples autochtones intervient en fin de ce journal pour parler protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Mesdames et messieurs, restez branchés sur la fréquence de Radio Okapi pour en apprendre davantage. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Yvan Lutumba. Bukavu, 9 morts, 4 rescapés, bilan d'un accident mortel qui s'est produit en début d'après-midi de ce mardi 28 juin 2022 dans la commune de Kadutu. Un minibus scolaire transportant des écoliers est entré en collision avec un camion qui roulait à grande vitesse. Emmanuel Elamejoa Kabedi.
C'était en début d'après-midi de ce mardi 28 juin que la nouvelle s'est répandue sur la ville de Bukavu. Plusieurs familles sont inconsolables. Une dizaine d'enfants, tous écoliers à SOS Village d'enfants, sont morts dans un accident de circulation dans la commune de Kadutu. Le bus scolaire s'est retrouvé totalement en dessous du camion en provenance de Walungu pour le centre-ville. Il a fallu des engins spécialisés pour séparer les deux véhicules et sauver ce qui pouvait l'être. Sur place, 8 écoliers et leur chauffeur sont morts dans ce drame. Une famille a perdu 2 de ses enfants. 3 autres écoliers, eux, sont sortis indemnes, tandis que un d'entre eux est grièvement blessé. Ses enfants, tous d'une dizaine d'années, revenaient de l'école où ils venaient de présenter les examens de fin d'année scolaire. Écoutez les témoignages de cet enseignant des enfants.
Cet accident qui vient de se passer, il s'agit bien de mes élèves, mes propres élèves que j'enseigne régulièrement. Ils sont de l'école SOS Bukavu, qui revenaient à peine de faire leurs examens, qui revenaient de l'école. Je ne sais quoi vous dire pour le moment, je suis inconsolable, ça ne va pas.
L'excès de vitesse serait la principale cause de ce drame. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre cas au Nord Kivu, un accident de naufrage sur le lac Kivu a failli coûter la vie à près de 25 élèves ce mardi dans les environs de Nzulo. C'est à une dizaine de kilomètres de Goma, dans le Goma de Kamuronza, territoire de Masisi. Selon les sources sur place, une pirogue à pagaie qui transporte habituellement les élèves en provenance du village Bougouloubé au bord du lac Kivu, moins de 10 kilomètres de Nzulo, et qui étudie à l'école primaire Maïndoulé, s'est renversée autour des 6 heures locales. Le secrétaire du chef du village Nzulo confirme que tous ses enfants ont tout de même été sauvés, notamment par les pêcheurs opérant dans la zone. À Bunia, le bâtiment du programme élargi de vaccination, PEV, où sont conservés des vaccins destinés aux 3 territoires de la province de l'Ituri, a été complètement consumé la nuit dernière par un incendie dont l'origine reste inconnue. Selon des sources médicales, les dégâts enregistrés sont estimés à près de 2 millions de dollars américains. Autre conséquence, 23 hommes de santé sur les 36 que compte cette province sont désormais privés de vaccins contre plusieurs maladies. Jean-Claude Lokidile.
Parmi les vaccins cassinés, il y a entre autres les vaccins contre la COVID-19, la poliomyélite, la rougeole, la coqueluche, la fièvre jaune ou encore la tuberculose. Au total, ce sont des milliers de femmes ainsi que des enfants qui sont désormais privés de vaccins contre 13 maladies, nous a confié en même temps les 7 congélateurs, la chambre froide et les frigos qui servaient pour la conservation de ces vaccins sont également partis en fumée. Un agent rencontré sur place parle également du mobilier de bureau, dont des ordinateurs, des correspondances et un générateur réduit en cendres. Malgré le secours du véhicule anti-incendie de la MONUSCO, le feu n'a pas été maîtrisé à temps, a déclaré un habitant. Cette situation risque de pénaliser les touristes si rien n'est fait dans l'urgence pour doter la ville de Bunia d'une nouvelle chambre froide et de vaccins. On risque d'assister à la résurgence de certaines maladies qui sont pourtant déjà maîtrisées, nous a confié une autorité médicale. Et pour l'heure, personne ne sait se prononcer sur l'origine de cet incendie. D'autres évoquent la piste d'une surcharge du courant électrique. Bunia, Jean-Claude Loki, il est Radio Kapi.
Autre nouvelle, dans un rapport publié ce lundi 27 juin, l'Organisation internationale pour la migration en République démocratique du Congo a recensé 297 935 déplacés internes dans la province du Tanganyika en mai 2022 sur les 36 derniers mois. Ce rapport entre dans le cadre de son programme de suivi des déplacements dans la province du Tanganyika. Les détails avec Jean-Pierre et Lali Ikoko.
Du 4 avril au 6 mai 2022, en étroite coordination avec la Division provinciale des affaires humanitaires, l'OIM, avec l'appui du partenaire de développement humain et protection de l'environnement social, ont réalisé des évaluations multisectorielles, notamment de mouvements de population dans 4 770 villages contenus dans 11 et zones de santé. D'après les informations collectées auprès d'environ 14 000 informateurs clés, 206 000 personnes déplacées pendant les 24 derniers mois sont présentes dans les 86% de l'étendue de la province évaluée. Le 10e est un programme de l'OIM. Il a pour objectif de fournir des informations de base concernant des mouvements de personnes déplacées et retournées dans les Tanganyika, en vue d'améliorer la compréhension des dynamiques du déplacement forcé et la mise en place des réponses humanitaires appropriées. La province du Tanganyika enregistre actuellement 330 000 personnes déplacées internes, soit environ 10% de la population totale de la province, d'après bien entendu les statistiques de la Division provinciale de la santé.
Parlons à présent de la coordination de la plateforme Espace Femmes, structure qui réunit toutes les femmes leaders du Congo central qui s'est plainte de la faible représentativité de la femme dans le nouveau gouvernement formé par le gouverneur Gimbadou Dungidi. Selon Annie-Thérèse Mbadou, sa coordonnatrice, malgré la lutte pour la promotion du leadership féminin que mènent les femmes du Congo central, les femmes ne sont représentées qu'à 15% en lieu et place de 30% que prévoit la Constitution. Elle demande au nouveau chef de l'exécutif provincial de revoir cet aspect des choses puisque la province regorge plusieurs femmes compétentes capables d'être à la tête des organes de prise de décision. Annie-Thérèse Mbadou s'exprime au micro de Nana Plurichmambou.
Les femmes du Congo central ne sont pas vraiment contentes. Nous sommes un peu déçus de voir que nous sommes en train de régresser au lieu de progresser par rapport à la lutte que nous faisons pour la promotion du leadership féminin. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre province? C'est la nomination de 20 personnes au gouvernement, c'est-à-dire 10 ministres et 10 commissaires généraux, mais dans ces listes, nous n'avons trouvé que 3 femmes. En tout cas, nous ne sommes pas contentes. Pourquoi? Parce que nous avons régressé de 15%. À l'époque du gouverneur Fembadou, nous avons eu 30% de femmes et à l'époque du gouverneur Atou Matubwana, nous avons eu plus de 30%. Et je ne sais pas ce qui ne va pas. Cette fois-ci, on a 15% au moment où il y a beaucoup de femmes Congo qui sont compétentes, qui peuvent aussi diriger la province et pourquoi pas les institutions au niveau de la province et à tous les autres niveaux. Pourquoi pas mettre 30 ou 50% comme prévoit la Constitution. Donc nous continuons avec notre lutte.
Parlant des gouvernements provinciaux, sachez qu'au Kassai Oriental, le nouveau gouvernement provincial est désormais connu. L'arrêté provincial portant publication du gouvernement provincial a été lu ce lundi soir sur la radio-télévision nationale congolaise. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le nouveau gouvernement provincial est composé de 10 ministres provinciaux, dont une femme, 3 commissaires généraux, dont une femme, ainsi que de 2 secrétaires exécutifs provinciaux. Parmi ces ministres, Yves Mwamba Kadima, président de l'Assemblée provinciale de CHU, fait son entrée dans ce premier gouvernement provincial de Patrick Mathias Kabeya comme ministre provincial de la Justice, Droits humains, Transports et Voies de communication. Une ancienne ministre provinciale du gouvernement d'Alphonse Goy-Kassangi, gouverneur honoraire, figure sur la liste des nominés. Dès lors qu'Aleta Chamala, la seule femme ministre provinciale, est en charge du plan, budget et aménagement du territoire. Un journaliste fait aussi son entrée au gouvernement provincial. Il s'agit de Léon Kapiamba-Chimankinda, qui sera désormais en charge de la communication, du travail et de la prévoyance sociale. Jachin Kalonji est le seul ministre provincial du gouvernement de Jean Mawuja Muteba qui a été récupéré dans ce nouveau gouvernement, mais cette fois-ci comme commissaire général en charge de l'énergie et du commerce. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle d'actualité, le président américain a nommé Lucy Tamlin comme nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC. Cette diplomate américaine remplace à ce poste l'ambassadeur Mike Hammer qui a été nommé début juin envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique. Portrait de la nouvelle ambassadrice avec Cynthia Bachizina Bizana.
Lucie Tamlin a une expérience de presque 40 ans au sein de la diplomatie américaine. Jusqu'ici, elle était chargée d'affaires par intérim à l'ambassade des États-Unis à Khartoum au Soudan. Âgée de 67 ans, polyglotte, elle parle couramment le français et le portugais en plus de l'anglais. Elle a été précédemment ambassadrice des États-Unis en République centrafricaine et au Bénin, mais aussi chef de mission adjointe aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Avant cela, la nouvelle ambassadrice américaine à Kinshasa était conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris et directrice du bureau de l'envoyé spécial pour le Soudan et le Soudan du Sud au sein du ministère américain des Affaires étrangères. Lucie Tamlin connaît assez bien le système onusien. Elle a en effet servi dans les missions des États-Unis auprès des Nations Unies à New York, Rome et Vienne et a été affectée au Brésil, au Mozambique, en Colombie et à Washington.
Justice au procès de François Béya et consorts. Une courte audience s'est tenue aujourd'hui à la haute cour militaire où tous les quatre prévenus ont comparu. Seul l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité était absent. Selon son conseil, Béya craint pour sa sécurité. La Cour a décidé de poursuivre l'instruction du fond de cette affaire vendredi prochain à la prison centrale de Makala. À cette même audience, elle devra aussi se prononcer, selon la défense, sur la nouvelle demande de mise en liberté provisoire des prévenus. Dans la province du Sud Kivu, des acteurs du secteur minier réfléchissent sur l'efficacité de certains mécanismes existants pour lutter contre les minerais dits de conflit. C'est notamment le règlement européen dont l'objectif est de s'assurer d'un approvisionnement responsable en minerais. Une séance d'échange autour de cette législation européenne a été organisée à Bukavu par le Bureau d'études scientifiques et techniques BEST ce 27 juin 2022. Une activité organisée dans la perspective de la révision de cette législation en 2023. Plus de détails avec Cynthia Bachizi.
Adopté en 2017 et entré en vigueur en 2021, le règlement européen s'inspire essentiellement du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence. En résumé, les entreprises européennes doivent s'assurer qu'elles s'approvisionnent en minerais dans des sites où il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Quel est aujourd'hui l'impact de cette législation sur terrain? Benjamin Bissimoi, directeur provincial de l'AFEC Sud Kivu.
Il y a un déficit d'impact. Il y a un écart considérable entre ce qui est prévu et ce qui se fait sur terrain. Mais cela n'enlève pas le caractère important de cette réglementation. Et on ne peut pas permettre à ce que sur l'espace de l'Union européenne, tout le monde achète des minerais et les vende en Europe sans une quelconque réglementation comme cela se fait actuellement entre les pays africains, les pays de conflits à haut risque, avec par exemple les Émirats Arabes Unis à Dubaï. Il n'y a pas de réglementation exacte qui réglemente un certain nombre de comportements d'entreprises.
Dans la perspective de la révision future du règlement européen, les acteurs de la société civile plaident surtout pour que certaines zones minières de la RDC soient retirées de la liste européenne des zones en conflit ou à haut risque de l'être. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé le traitement violent et dégradant des migrants africains vendredi lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla. Réclamant une enquête sur ce drame qui sera examiné mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. J'exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant des migrants. Dans un tweet, l'ambassadeur du Kenya à l'ONU, Martin Kimani, a annoncé qu'à l'initiative de son pays, soutenu par le Gabon et le Ghana, les deux autres pays africains actuellement membres non permanents du Conseil de sécurité, celui-ci allait tenir une réunion à huis clos sur la répression violente des migrants de vendredi. Les autorités éthiopiennes ont nommé une équipe de 7 négociateurs en vue d'éventuels pourparlers de paix avec les forces du Tigré. Cette annonce intervient après que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé plus tôt en juin la formation d'un comité chargé de gérer les négociations avec le parti au pouvoir du Tigré que le gouvernement a déclaré groupe terroriste l'année dernière.
L'invité.
Amener les magistrats congolais à être porteurs du plaidoyer en faveur de la protection et la promotion des peuples autochtones pygmées, c'était l'objectif d'un atelier organisé la semaine dernière à Bukavu par l'organisation Environnement, Ressources naturelles et Développement. Cynthia Bachizi Nabizana s'est entretenue à ce sujet avec le professeur Wenceslas Boussané qui a facilité les échanges au cours de cet atelier. Il est de l'Université catholique de Bukavu et spécialiste en droit des peuples autochtones. Suivez.
Professeur Boussané, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici dans un atelier d'échange avec des magistrats du ressort de la Cour d'appel du Sud Kivu. Pourquoi exactement?
Il s'est fait que le droit des peuples autochtones pygmées, pour qu'il puisse se réaliser de manière satisfaisante, beaucoup d'acteurs doivent être impliqués, doivent donner leur part, notamment les magistrats. En cas de contestation de droit, en cas de confirmation de droit, le dernier ressort, c'est la justice. Et voilà pourquoi l'organisation a envisagé, ou envisage depuis quand même quelques années, ce n'est pas la première fois, d'avoir des échanges avec des magistrats pour notamment, disons, parler de la cause des peuples autochtones pygmées, de pouvoir bien prendre conscience de l'ampleur du problème qui est celle de cette catégorie de nos concitoyens, afin que lorsqu'ils rentrent dans leur cabinet, dans leur espace de travail, qu'ils puissent avoir une attention, disons, plus particulière par rapport à la cause des peuples autochtones pygmées.
Quelle est aujourd'hui vraiment la cause des peuples autochtones?
Je peux dire que les peuples autochtones, d'abord, c'est une réalité qui est assez vaste, hein, parce que ce n'est pas seulement limité à notre pays, ni à notre province. Pour nous, nous avons les peuples autochtones pygmées, alors qu'en dehors de la RDC, en dehors du continent africain, il y a d'autres peuples autochtones pygmées. Mais la plupart des fois, que ce soit ici en RDC, que ce soit en Afrique, que ce soit en dehors de l'Afrique, c'est la marginalité de cette catégorie. La tendance de vivre des discriminations, de ne pas accéder à la même égalité des chances, et essentiellement la question de la tenure foncière. La plupart des peuples autochtones, dont les pygmées, n'ont pas vraiment des droits fonciers suffisamment garantis pour leur permettre une bonne implantation socio-économique.
La question foncière revient souvent. Je pose la question parce que je me dis, au niveau du PNKB, vous pensez qu'on doit vraiment œuvrer à trouver un terrain d'entente afin que la question foncière entre les peuples autochtones pygmées et le PNKB soit résolue?
Je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. Il s'agit des citoyens congolais comme tant d'autres. Et la Constitution garantit à tout le monde le droit de propriété. Notamment en matière foncière, il y a des droits qui sont reconnus à tout citoyen, notamment le droit à la terre. Et ainsi, on doit trouver une solution pour que les pygmées, comme n'importe quel Congolais aussi, puissent avoir aussi des droits protégés de manière significative, de manière efficace. Il faut trouver une solution. Maintenant, nous évoquons les PNKB. Les PNKB, ce n'est qu'un cas, notamment à prendre parmi tant d'autres, mais je crois que c'est au niveau de l'État congolais en général, au niveau des politiques publiques en matière de protection des droits, de tout le monde d'abord, et puis des catégories particulières, notamment les peuples autochtones pygmées. L'État congolais doit avoir des politiques en matière des droits de tout le monde, mais également une politique en matière de conservation de la nature, mais qui soit ouverte à laisser un espace pour les catégories comme les peuples autochtones pygmées, qui, par leur nature, ont une grande proximité avec les aires protégées, les forêts, etc.
Vous pensez que les peuples autochtones pygmées ont été expropriés de leurs terres au niveau du PNKB?
Au sens juridique, de manière rigoureuse, ce n'est pas, disons, évident à confirmer. Mais la réalité est qu'ils sont dépourvus d'une terre. Dans leur mental, les peuples autochtones pygmées estiment que toute la terre de la RDC leur appartenait, parce que déjà nous l'avons appris, ils sont les premiers occupants. Mais au fur et à mesure, leur espace s'est restreint et ils se sont retrouvés dans les espaces des forêts. Et dans les forêts, il y en a qui ont été classés comme aires protégées, parcs, réserves, etc. Et donc, ils peuvent notamment avoir l'idée que le PNKB et la forêt qui est là-bas leur appartenaient. Mais sur le plan juridique, au regard de la loi qui est actuellement en vigueur, on ne peut pas l'affirmer ainsi. Mais ce qui est vrai, et là, l'État congolais ainsi que nos juridictions doivent trouver une solution, il faut qu'eux aussi puissent avoir un espace foncier pour des activités agricoles, pour l'élevage, pour notamment l'agriculture, etc., comme tout le monde. Donc, est-ce qu'ils ont été expropriés? Je ne le dirai pas de manière rigoureuse, mais au moins ils ont été expulsés. Ils ont été mis dehors de cet espace où ils se reconnaissaient comme étant dans leur terroir, on peut dire, ancestral.
Professeur Woussane, je vous remercie.
Je vous remercie également.
Ça en est ainsi fini avec cette édition du soir sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal.